Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge Monday Night Raw. Nous sommes le 11 octobre 2021 à San Francisco, Californie. Et pour m'accompagner dans l'analyse de ce show déjà historique, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton.
Salut El Patron, salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Eh ben ouais, écoute, ça y est, c'est parti, on est lancé là sur la route de Crown Jewel. Et puis la suite avec les tournois, si vous avez été écouter SmackDown et vous avez intérêt, c'est en ligne. On a reviewé un peu ça ce week-end là. Le lancement du tournoi féminin et masculin. Et je crois que ce soir, on est en plein dedans.
On est en plein dedans. C'est pas mal d'avoir ce petit tournoi, là, ces phases de qualif là, juste avant Crown Jewel. Ça rajoute un peu d'intérêt, hein, d'excitation autour de ce pay-per-view et puis les weekly pour cette route qui va nous emmener dans des destinations très exotiques. Et l'exotisme, Tonton, on en a eu dès l'entrée, puisque le bel homme a ouvert le show, Drew McIntyre. Alors l'épée, la musique, la cornemuse, tout est là. Hein.
La complète.
La complète, le package complet.
La galette saucisse.
Ah oui, la bonne
avec
galette
avec des tomates,
saucisse.
Des oignons. Et
ouais, vous m'en mettrez deux, hein, patron. Allez, c'est parti. Hein. On a faim, ça donne faim. Drew McIntyre, qui vient donc.
Le psychopathe écossais est en civil quand même. Hein. Il arrive pas en slibard.
Il est pas en slibard, toi. Hein, Attends, mais il est quand même venu avec son épée, on est d'accord.
Ah ça, on est d'accord, oui.
Ah bon, ouais,
il l'a quitté. Il l'a quitté. Il se déplace jamais sans son épée, dorénavant.
Au métro, dans les magasins, dans les grandes boutiques, dans les grands magasins, il se déplace avec son épée.
Sur l'épaule, tranquille, allez.
c'est marrant, tout le monde le laisse passer à la caisse. Donc, il arrive. Drew donc nous parle de Crown Jewel. Il nous annonce qu'il va remporter évidemment le titre de la WWE. Et puis il a une histoire à nous raconter, comme il aime souvent nous raconter Drew McIntyre. Mais il est rapidement interrompu par Big E. Et Big E qui se délecte d'être champion, le doux nectar hein, du championnat de la WWE coule sur son torse.
Avec tous les privilèges que donne d'être le champ, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais ce week-end, Big E était en première ligne pour le match de championnat du monde entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Et ça a été un guest de marque, le Big E.
Bah non, écoute, tu m'apprends quelque chose, c'est-à-dire qu'il était au premier rang.
Ouais. Et il a même fait une petite promo et tout ça, quoi.
Non, ah ouais, ouais très bien.
C'était un guest. Apparemment, il a l'air d'être bon pote avec Tyson Fury, en l'occurrence.
Ah bah écoute, il faut bien choisir ses amis. Je pense qu'avoir Tyson Fury comme copain,
ouais,
ça aide beaucoup dans la vie.
T'as le champion du monde poids lourd de boxe dans tes potes. Ton réseau est quand même assez fort.
Solide sur ses appuis.
Exactement. Prêt à aller au mastic.
Bon alors, le doux nectar du championnat, on en parle là, qui coule sur les tétons pointus et tout durs de Big E, là, c'était un petit peu, je pense que ça a dû te faire frémir un petit peu, là, sous ces allusions un petit peu érotico, mielleuses.
Frémir ma libido de quinquagénaire. Ouais, alors ça, bah, les boobs à Big E, hein, c'est quand même quelque chose, quoi.
Alors,
t'as Drew McIntyre à côté, là, t'as quand même... T'as ce qu'il faut, quoi. T'as ce qu'il faut sur le ring, quoi, en termes de barbac, quoi.
Ah ouais, des beaux spécimens, des beaux étalons qui sont devant nous. Et bon, il envoie un peu bouler Drew McIntyre. Drew McIntyre, ça le fait marrer. Il lui dit quand même, tu sais, moi, ce doux nectar de champion, j'en ai encore un petit peu dans la bouche, parce que c'était il n'y a pas si longtemps. Hein, Drew McIntyre, il est quand même double champion. Il a porté le titre et la ceinture pendant plus de 300 jours. Bon, il n'y avait personne pour le regarder, mais... À part nous derrière nos écrans, mais c'était quand même un sacré règne. Il a porté la.
Mais oui.
Il a porté la WWE.
De l'année 2020.
Bah oui, le Corona champion, comme on dit. Hein. Et son moment va revenir à Crown Jewel. Et Big E, il va rien pouvoir faire. Et là, et voilà, les pénibles qui débarquent, les Usos. Les Usos sont là, ils sont chauds. La Bloodline est en Californie. Roman Reigns va battre Brock Lesnar. La seule question qu'on peut se poser, c'est qui qui va sortir gagnant de cette rencontre entre Drew McIntyre et notre champion adoré Big E. Puisque, alors là, je sais pas, écoute, tu vas me dire ce que t'as pensé tonton, mais je sais pas ce qui s'est passé dans la promo ou quoi, mais en fait, qui va affronter Roman Reigns au Survivor Series? C'est la question que se pose les Ouzo. Alors,
dis-moi, attends,
qu'est-ce qu'ils nous parlent? Les mecs, ils balancent comme ça un booking pour les Survivor Series. Alors, je crois que, d'ailleurs que les commentateurs ont essayé un petit peu de rattraper le truc, parce qu'ils disent, oula, attendez, c'est quoi cette grosse annonce là? C'est un petit peu sorti de nulle part.
Un petit peu prématuré, peut-être.
Ouais, je sais pas, dans la promo, c'est tombé comme ça. On dit, mais attends, de quoi il parle? Surtout qu'enfin, il y a beaucoup de choses à booker. Donc, en plus, on nous parle déjà des Survivor Series. C'était très bien. Hein. Ça rajoute de l'intérêt à cet affrontement. Mais effectivement, c'était assez surprenant. Les Ouzo, après, se font. Voilà, ils finissent. Ça finit en super. Double super kick, là, sur McIntyre et Big E. Ça termine en bagarre. Et on retrouvera tout ce beau monde un petit peu plus tard.
Exactement. Alors écoute, je trouve que c'est tout à fait représentatif de ce que va être le Raw et SmackDown de toute façon jusqu'à Crown Jewel. Puisque là, c'est le gros foutoir, étant donné que les rosters ne seront effectifs qu'à partir du 22 octobre. Et donc du coup, c'est la wild card. On est en train de vivre la wild card en ce moment. Et du coup, ça permet d'avoir un peu tout le monde qui se balade de SmackDown à Raw, de Raw à SmackDown. Donc moi, je suis plutôt assez favorable à ça. Je trouve ça assez sympa, mais et ça permet d'avoir une interaction quand même avec Drew McIntyre, Big E et la meilleure équipe of the world, les Ouzo. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Donc la promo était plutôt sympa. Effectivement, l'histoire du booking du Survivor Series, c'était un petit peu étrange. C'était un petit peu et derrière Corey Graves, comme tu l'as bien signalé. Et c'était qui? Jimmy Smith. En fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Après, petite super kick party pour finir le segment. Donc, non, ça va. Moi, j'ai plutôt adhéré au segment d'ouverture. C'était plutôt sympa.
T'as pas trouvé ça un petit peu long?
Alors, par contre, ouais. Alors, il y avait peut-être un peu de longueur.
Au début. Hein.
Vu le programme, quand même, qui était chargé, qui était annoncé sur la carte. Donc, j'étais peut-être un peu étonné que ça prenne tant de temps. Bon, écoute, à voir la suite, de toute façon, on va en reparler.
Ouais, on va en reparler. Moi, écoute, j'ai trouvé ça donc un petit peu long, évidemment. Et puis, j'ai un petit peu de mal. Je trouve que Big E n'est pas très aidé pour l'instant pour débuter son run de champion. Puisque lui mettre un super face comme Drew McIntyre dans les pattes, alors, ok, c'est une belle affiche, mais je suis plutôt impatient de le retrouver face à des vrais heels où il pourra vraiment exploser, et être le top babyface qu'il est censé être. Là, je trouve que les deux ont un peu tendance à s'annuler, tu vois. Quand tu mets deux fesses face l'un à l'autre, c'est pas facile à dire. C'est pas évident. Et je trouve que Big E, il est encore un petit peu en dedans, tu vois. Il a pas encore. Il est timide encore, je trouve, Big E. Là, il nous a parlé un petit peu de ses tétons. Donc, je me suis dit, ah, ça y est, quand on commence à parler des tétons de Big E, on retrouve un peu le Big E qu'on aime, quoi. Hein, le Big E fun, rigolard.
C'est aussi parce que là, je pense qu'il est dans une feud de transition avec Drew McIntyre.
Et, ouais.
Et que, tu vois, il va pas encore affronter du gros challenger vraiment définitif là à partir de la fin octobre. Donc, comme il est dans cette feud de transition, c'est pour ça, effectivement, qu'on a l'impression que le règne un peu tourne un petit peu en rond, mais pas beaucoup, ça va, parce que moi, quand même, je trouve qu'il est bon, au micro, puis il délivre la marchandise à chaque fois qu'il est dans le ring. Donc, moi, je le trouve quand même assez solide, Big E. Moi, je suis plutôt positif et plutôt confiant pour la suite avec lui.
Ouais, bon, on est impatient quand même qu'il puisse dérouler sur un peu de mid-card aussi, toi.
Ouais, et puis il aime bien là, on arrive dans le booking du Survivor Series, justement, et il est toujours à l'aise dans les trucs collectifs et tout ça, quoi. Donc, je pense qu'il va bien se fondre dans l'affaire. Je pense qu'il sera encore champion d'ici les Survivor Series. C'est un pari que je prends, osé peut-être, mais je l'imagine encore champion au Survivor Series. Et ça nous promettrait, par exemple, un Big E versus Roman ou Brock Lesnar. Ça peut envoyer du lourd, mine de rien, quoi.
Ah bah complètement. Ils ont déjà un petit peu croisé leur chemin, mais dans des configurations à plusieurs. Big E versus Roman Reigns. Enfin, dans le main event de la WWE, il y a que des affiches alléchantes.
Bah, Big E, Bobby Lashley en embuscade en plus, donc ça fait du lourd tout ça.
C'est que des costauds, hein. Que des potes à Tyson Fury. Bon, en parlant de copains, avoir un bon copain, c'est bien. En avoir deux, c'est mieux. Mais quand t'en as deux qui te laissent te faire tabasser Alors qu'ils sont dans la gorilla position, ça c'est, on n'a pas l'impression de, c'est forcément des super potes, hein. Parce que t'avais comme Xavier Woods et Kofi Kingston qui étaient backstage pendant que Biggie se bouffait les smells des Uso. Ils avaient une petite interview là, leur dit, ouais, à propos du fameux King of the Ring. T'en parlais tout à l'heure, hein, le tournoi qui prend, qui dit bah attendez, Monsieur Woods, Monsieur Kingston, qu'est-ce qui se passe si vous vous retrouvez l'un face à l'autre, parce qu'ils sont du même dans le même le même groupe, hein, groupe B, on va dire. Ils sont en partie droite du tableau.
Dans la version.
Ouais. Et les gars, répondent pas vraiment.
T'as la partie SmackDown.
Ah bah voilà, tout simplement. Tu l'as très bien expliqué. Et puis les mecs, ils disent rien, et puis ils s'en vont. Voilà. Donc, c'est
ils
pas
rigolent.
Des, c'est... Bon, ils rigolent. C'est pas des... Alors que leur pote vient de se faire décrocher la mâchoire. C'est plus leur problème. Biggie, c'est plus leur problème. Ah la vache. Ah les potes, heureusement qu'ils sont là. Hein. Heureusement qu'ils sont là. On parle du match qui a suivi. Je pense que tu devais être content. Un petit Xavier Woods versus Ricochet.
Ouais. J'étais plutôt content du line-up.
Ouais. Peut-être moins le résultat.
Ah, mais ça veut dire que t'as pas écouté encore l'analyse de SmackDown, mon ami.
Non, je me fais encore enchaîner. C'est pas... Déjà la semaine dernière, tu m'as mis le nez dedans. Écoute.
Alors là, celle-là, mais alors elle est arrivée, mais direct, pleine cible.
Voilà, la Tyson Fury, quoi. Il m'a fait une Tyson Fury. Crochet, là, d'entrée, premier round.
Ouh, je prends la ceinture de catcheur.
Allez, va-t'en. Sors de mon bureau immédiatement. Sortez, monsieur.
Oh, fuck.
Écoute, on a beaucoup de choses à gérer à Ketchup. Il reste plus grand monde. Hein. Attends, là, on se charrie, mais on tient la baraque. Alors, oui, effectivement, j'ai pas encore écouté le SmackDown, l'analyse que vous avez faite, mais je vais le faire. Donc, si vous.
Attends, on n'a plus besoin, puisque.
Avec
ce match, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer toute l'affaire.
Puis, comme je suis un peu maso, je vais peut-être faire exprès de plus écouter vos analyses pour me faire enchaîner à chaque fois. Mais écoute, explique-moi. Qu'est-ce que tu as dit alors?
Ah bah non, mais en fait, si on fait le on a parlé du longuement du King of the Ring avec Géliel et Papy, et on a donné à la fin de la review, je spoil la review, mais on a donné à la fin nos favoris en fait pour le tournoi féminin et masculin,
oui,
et tous les deux ont donné Finn Balor en vainqueur, et moi, j'ai donné Xavier Woods. Donc malgré le fait qu'il affrontait Ricky LaBelleVie, qui est un de mes chouchous, il y a pas de problème. Mais malgré tout, Ricky, je ne l'attendais pas à la victoire face à Xavier Woods. Xavier Woods me paraît particulièrement motivé à la perspective d'être King of the Ring. Et je sais pas pourquoi, je le sens bien là. Je sens bien une finale Xavier Woods Finn Balor, et je sens Xavier Woods vainqueur. Et donc c'est ce qui s'est passé. On a eu un beau petit match de 11 minutes. Du coup, je fais un peu le play by play. Un joli, vraiment un beau match, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé 11 minutes opener catchesque de Raw, vraiment de super qualité. Un Xavier Woods comme je l'attendais, c'est-à-dire archi motivé, quoi, qui s'est envoyé face à un voltigeur. Donc là, il faut y mettre. Donc il nous a fait son fameux diving elbow à la Macho Man, et vraiment on a eu quelques moves, quelques superplexes quand même assez fantastiques, quoi. Et avec je sais pas, il y a eu un espèce d'enchaînement où il fait une superplex Woods, et après derrière je crois que c'est un Falcon Arrow ou je sais plus ce qu'il fait, mais enfin vraiment Woods, moi je l'ai senti archi motivé, et j'ai trouvé que le match était super agréable à suivre. Et finalement, comme je l'avais annoncé pour la review SmackDown, victoire de Xavier Woods qui part en demi-finale.
Alors ok, c'est ce que tu avais prédit, mais c'est pas forcément ce que tu aurais aimé se passer. T'aurais petit ching de Ricochet, ça t'aurait fait plaisir aussi.
Ah mon petit cœur, mais Ricochet, il est pas fait pour un... Alors ça aussi, on en a longuement parlé, tu vois, mais... Le problème, c'est qu'on est beaucoup à penser que le King of the Ring, c'est un titre un peu heel, qui est souvent détenu par un heel. Et que donc, faut vraiment avoir un face vraiment motivé, vraiment over pour tenir le rôle de King of the Ring.
Ouais.
J'aurais jamais vu Ricochet dans un rôle de King of the Ring. C'était pas, pour moi, c'est pas crédible, quoi.
Il aurait disparu fondu sous le poids de la couronne.
Voilà. Moi, mon booking pour Ricochet, son avenir à ce garçon, c'est que à SmackDown, là, il aille dans la title picture du titre intercontinental. Et là, je veux le voir là, à cet endroit-là. Et là, j'espère qu'il va faire des étincelles, le Ricky. Mais en attendant, c'est Xavier Woods qui passe en demi-finale au King of the Ring.
Ouais, bah écoute, je te rejoins. Voilà, un bon match et puis un mec motivé, très 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 motivé, qui a envie d'être le roi. C'est Xavier Woods. Alors, on enchaîne ensuite.
Je pense qu'ils sont tous motivés. Excuse-moi, je te coupe, mais juste pour te dire, je pense qu'ils sont tous motivés. Ce que je trouvais, je sais pas, t'en as pas dit ce que t'en pensais, mais je trouve que le tournoi masculin, au niveau du line-up, était pas dégueulasse, quoi. Les 8 catcheurs qu'ils nous ont mis, tu vois, avec le format traditionnel, quart, demi, finale. Et le line-up masculin est plutôt sympa, non?
Ouais, c'est un beau line-up, de la belle mid-card, voire même certains anciens champions. T'as des mecs rigolos, t'as des mecs pas rigolos, t'as des mecs qui ont vraiment la gueule de l'emploi pour devenir des insupportables King of the Ring. Je pense au Jinder, au Sami Zayn, tous ces gars-là. Ils sont limite faits pour le job, quoi, faits pour le boulot. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord, c'est un très très beau line-up où il n'y a pas de personne qui paraît un petit peu sur la touche. Donc, c'est un beau tournoi, c'est un beau tournoi. En tout cas, avec des belles affiches. Des belles affiches. On reprend où on en était. Bon, je passe les petites séquences backstage, on en parlera plus tard. On va directement au match suivant. Un autre match tag team, de plus faible intérêt, on va dire. Un match de low quart d'heure, quoi. Un match de low quart d'heure. Presque. Avec le Hurt Business qui affrontait Mustafa Ali et Mansour. La seule chose à retenir dans ce match, c'est évidemment la fin, puisque y avait de l'eau dans le gaz entre Mustafa Ali et son protégé Mansour. Et ce qui devait arriver arriva. On est à 2 semaines de Crown Jewel. Il nous faut un petit match pour Mansour pour briller. Et ce match, ça sera Mustafa Ali versus Mansour, puisque Ali, l'ancien leader de cette faction, comment ça s'appelait déjà ? Redemption ? Resurrection ?
Retribution.
Retribution. Aussi déjà enterré, déjà oublié, se retourne contre Mansour et il l'attaque. Il n'a pas l'air content et il dit ce qu'il dit tous les ans. Il dit qu'il en a marre, il en a marre de ses conneries et il s'en va. Ça fait 5 ans que t'en as marre, mon pauvre Ali. Ça te tente peut-être partir pour de bon. Bon, écoute, voilà, on a le héros Mansour. Hein, le héros Mansour, il est là, il est prêt.
Alors le match, il est au-delà d'anecdotique, hein, puisqu'il ne dure que 1 minute 20. Et puis, mea culpa hein, au peuple de catch-up, puisque moi, j'avais pas du tout envisagé un booking comme celui-ci. Puisque moi, j'avais envisagé que Mansour et Mustafa Ali allaient rester en équipe et allaient peut-être créer une équipe assez solide et allaient avoir un gros booking pour Crown Jewel. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'on nous a vendu. On a fait splitter les deux gars pour qu'ils puissent s'affronter à Crown Jewel en 1-1. Alors, je sais pas, ce sera peut-être le pré-show. Ou même pas, parce que je pense qu'il va avoir droit au milieu de carte. Hein. Et donc, voilà, on a notre booking pour Mansour, qui est invaincu, hein, il faut le dire, hein, dans les pay-per-view saoudiens jusqu'à présent. Et puis, le Hurt Business, qui, au passage, s'accroche une petite victoire pour leur retour là, un peu officiel depuis 2 semaines là, dans le clan. Bon, ça permet juste de les solidifier un petit peu plus. Et puis de dire, ça y est, Alexander et Shelton Benjamin sont vraiment back to the business.
Ouais. Bon, direction... Le tournoi féminin.
Alors là, il va y avoir... Alors là, je vous préviens tout de suite, il y a colère.
Il y a colère. Tu n'as pas aimé ce match d'une minute 25.
Tu peux même nous faire un package sur les deux matchs ensemble, comme ça, tu vois, on va pouvoir évacuer le problème du tournoi féminin.
Monsieur veut un tarif groupé, monsieur.
Oh oui.
Ristourne.
Je veux la carte vermeille.
Et la carte de vermeil, elle avait la tête de Dana Brooke qui s'est fait plier par Shayna Baszler en 1 minute 25. Voilà, avec un gros coup de genou dans la tronche, boum, envoyé, c'était pesé. Et de l'autre côté, le deuxième match, c'était Doudrop contre Natalia. Un match plié en 3 minutes avec un petit paquet qui compterait un sharpshooter de Doudrop pour offrir à la nouvelle arrivante son ticket. Face à Natalia.
Holy shit,
Natalia qui était tout en beauté ce soir, mais mieux fallu faire plus attention à ce qui se passait entre les cordes qu'entre son corset. Alors, le tournoi féminin, ça valait le coup, non ?
Oh mon dieu. Alors, ça, il y a quand même des infos incroyables hein, sur ce tournoi féminin. Alors déjà, le line-up. Alors j'en ai parlé à SmackDown, donc je vais être un peu répétitif pour ceux qui ont écouté SmackDown, mais c'était une catastrophe. C'est une catastrophe, il faut bien le dire. Tu l'as vu, SmackDown, de toute façon. Donc, c'était déjà une catastrophe du côté des filles. Ça a été une catastrophe pour ce Monday Night Raw. En temps cumulé, les 4 matchs sont à 8 minutes 12. C'est un truc de fou. Et en plus, le line-up est quand même archi dégueulasse.
Dégueulasse.
Il n'y a qu'une seule, peut-être probable, possible main eventeuse sur les 8, c'est Shayna Baszler, et qu'on ne voit pas comment le titre pourrait lui échapper, la Queen of Spades. Quand tu penses que la finale du côté, la finale de conférence du côté de SmackDown, c'est Zelina versus Carmella, quoi. Wouh! Wouh! Tu te dis non! Et là, et si tu veux, après ce qui s'était passé à SmackDown, justement, je m'attendais qu'un Raw, je me suis dit, ah, avec les deux matchs féminins de Raw, ils vont peut-être faire un effort, ils vont donner plus de temps, ils vont vouloir rendre Shayna Baszler peut-être encore un peu plus fort, donc elle va avoir un peu plus de temps de ring, ou de promo, ou de choses comme ça. Mais non, 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 on nous a dégueuler un truc dégueulasse.
Vite fait, mal fait.
Ah ouais, alors là, le tournoi féminin, mais le plus mal géré, autant ils ont fait des trucs superbes avec le pay-per-view Evolution, avec le fait que les filles accèdent dans les main events de pay-per-view.
WrestleMania.
WrestleMania, et puis régulièrement sur les weekly aussi, quand tu vois une Bianca Belair qui fait un back-to-back sur les main events de SmackDown et Raw. Enfin, je veux dire, les femmes ont des fois un traitement qui peut être vachement bien ces dernières années. Mais là, ils sont passés complètement à côté de ce tournoi féminin. Là, c'est une catastrophe, c'est à chier, c'est acheté à la poubelle. Est-ce que même avec le corset de Natalia.
Ouais, je sais. Le problème, c'est la mid-card qui est inexistante, en fait, dans la division féminine. Tu as, comme tu l'as dit, les main eventeuses d'un côté qui ouvrent et ferment tous les shows.
Et ouais, c'est ça.
Voilà, donc tu as le carré magique en attendant le retour de Bailey. Mais sinon, tu as ce carré magique. Le reste, c'est de la low card ou des potentielles main eventeuses, mais qui se pataugent dans de la low card. Et forcément, je sais même, en fait, tu regardes de rétrospectivement, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ce qu'on a eu, quoi. C'est triste, c'est horrible à dire, mais.
Si, on aurait pu avoir un peu de catch, quoi. Si tu veux vraiment entre les cordes, qu'il se passe quelque chose, qu'on nous donne. Tu vois, une Dana Brooke, je suis sûr qu'elle est capable de sortir un match de 4-5 minutes.
Ouais, mais face à Shayna Baszler. Non.
Oui, alors malheureusement, ouais, sur le tirage, elle tombe sur Shayna Baszler, quoi. elle a vraiment pas de chance, quoi.
Pas de chance au tirage.
Par exemple, où est Alexa Bliss dans un tournoi comme ça? Il y a des choses quand même assez étranges. Je sais pas, pour moi, ils sont à côté de la plaque là sur le tournoi féminin. Ils sont vraiment bien foirés là.
Ouais. Non, là, voilà ce qui arrive quand on oublie un petit peu sa division féminine et que toutes nos main eventeuses sont occupées et qu'on se rajoute là. On fait une OP marketing, là, une OP de com en rajoutant le tournoi féminin. Et ça ressemble, c'est vrai que ça ressemble à rien. Hein. Ça ressemble à rien du tout. Bon, voilà. Tu l'as voulu, ton gros paquet, ou enfin plutôt ton petit paquet, et c'est fait. Hein. Voilà. T'es content?
Hein, ouais, parfait. C'est parfait. C'est évacué. On en parlera certainement à la toute fin.
Allez. Il y avait un autre match qui n'a pas duré très longtemps, qui était un squash. Dans un joli paquet, on va dire, quand même, parce qu'il y a eu pas mal de choses autour. C'est Riddle versus Omos. Alors, il y a une petite séquence backstage avec Riddle et Randy Orton. Alors, je sais même plus ce qu'il a dit. Il a raconté des conneries, une fois de plus, dans les backstage. Et on se retrouve avec Riddle qui appelle, en fait, qui est là avec son micro et qui demande à ce que Orton, qui essaye d'invoquer Orton, en fait. Essaye d'invoquer Orton alors que Omos est là avec AJ Styles. Mais Orton ne vient pas. Et Styles se moque de Riddle. Et il a juste. Voilà, que Riddle doit juste accepter sa mort imminente face à Omos, qui bave déjà d'envie de. Qui ricane à l'idée de détruire Riddle. Et puis, donc, l'arbitre lance le match et Riddle se barre et il attaque AJ Styles. C'est assez marrant, d'ailleurs, c'est assez inattendu. Mais Omos le chope et puis, il le choque slam et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Mais Styles dit non, le slam
de l'arbre. les Américains, ils appellent ça le tree slam.
Ah oui, d'accord, mais c'est vrai que tu tombes de haut. Hein.
Ouais, ça c'est clair.
Mais Styles n'en a pas fini. Il dit oh, ça prend ton temps, vas-y, mets-lui des coups de pied parce que t'as fait du karaté. Boum, boum, boum. Donc le bro, là, il s'en prend plein la tronche. Et puis, Omos, finalement, porte la victoire après un autre trislam, comme Tonton nous l'a très bien expliqué. Et Orton finit par arriver et a placé un RKO à AJ Styles Alors que sa musique s'était lancée avant de se sauver.
Oh bah écoute, tout ça c'était plutôt sympa. Et bah, le match en fait en lui-même est pareil, super court, ça dure 2 minutes 30. Mais globalement, je suis un peu plus positif là-dessus parce que la rivalité en fait entre les deux équipes est sympa depuis le début. Ça fait quelques semaines maintenant que ça dure. Ça se développe bien de lundi après lundi. Les surprises avec Randy, il y en a toujours un qui prend un gros carton, une grosse cartouche, et c'est souvent Riddle qui prend des cartouches, qui travaille un peu pour l'ancien. Et globalement, c'est une rivalité qui me plaît plutôt bien. Je suis assez hypé pour ce match à Crown Jewel. Donc globalement, mission réussie, même si ça manquait de catch, quoi.
Ouais, ça manquait de catch. C'est vrai que c'était pas très très, on n'était pas très très gâté à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que c'était. Mais c'était rigolo. C'est marrant, on le voit.
Ouais, ouais, Riddle tient bien le personnage. Toutes les références, il est à fond avec toutes les références, avec Randy, etc. Enfin, voilà, ouais. Tout le package, si tu veux, est plutôt sympa, quoi. Après, c'est. Alors, je suis partagé sur ce genre de truc parce que des fois, je me dis, ouais, bon, ouais, j'aurais bien pris quelques minutes de plus. Et puis, je me dis, ouais, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de trop en voir avant le pay-per-view, là, qui est dans une dizaine de jours. Donc je me dis bon allez ouais bon tant pis on fait un truc un peu marrant un peu comedy wrestling et puis ça passe bien puis Homo c'est quand même un sacré monstre Edge Styles est quand même moi enfin au micro lui hein il y a pas de problème quoi voilà quoi le mec il tient la cadence sans problème avec le mic et donc du coup ça donne une rivalité assez rythmée et c'est plutôt cool et sauf que si je devais mettre un bémol en fait c'est que maintenant j'attends que j'imagine ça va être la fin de la rivalité à Crown Jewel. Et j'attends un peu qu'il y ait du monde qui se pointe à la fenêtre là du côté de Raw pour le titre tag team, qu'il y ait un peu de compétition dans cette division quoi.
Oui, y a eu des nouveaux arrivants, donc vu que la draft prendra effet au lendemain de Crown Jewel, si je dis pas de bêtises, il y a tous les nouveaux arrivants, il y a eu des échanges qui est arrivé, il y a eu les War Raiders qui sont partis ou qui sont arrivés, ou l'inverse, c'est avec les...
Il y a les Street Profits, il y a les Los Mysterios, il y a quelques équipes qui sont arrivées là de toute façon, donc on va voir ce que ça va donner la suite.
Ouais. Il s'est passé pas mal de choses à droite à gauche, on a notamment eu Austin Theory qui a fait un petit selfie avec Big E, et Austin Theory on l'a retrouvé juste après face à Jeff Hardy. Il l'avait attaqué justement la semaine dernière. C'était aussi une théorie qu'il y a un jeune drafté depuis qui arrive depuis NXT. Et puis finalement il va profiter de pas mal de joyeux bordel pendant le match, avec notamment toute la commission 24/7 qui a déboulé. Et puis quelques petites distractions et après avoir évité la Swanton de Jeff Hardy, petit roll-up d'Austin Theory, en tenant bien le pantalon, bien le slip de l'ancien champion de la WWE, pour une belle victoire accrochée là, par le petit jeune sur le vétéran.
C'est ça, 2 minutes 05, et en plus un match coupé avec un passage des mecs du 24-7, quoi, dont tout le monde se fout royalement. Bon, c'est un peu... Je sais pas. Écoute, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à en dire. On va avoir la suite, va falloir qu'il nous donne un peu autre chose. Austin Theory, bon écoute, il reprend quand même à peu de choses près, pas mal de traits de caractère de ce qu'il faisait à NXT. Jeff Hardy, j'ai un peu du mal à m'expliquer son booking depuis quand même pas mal de mois. Et ça me fait penser un peu à Kevin Owens de l'autre côté à SmackDown. Donc on va voir avec les changements là, avec cette draft. On verra ce qui se passera. Et puis écoute, Austin Theory, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont l'intention de le pusher, puisque il obtient des victoires face à des vétérans. Il se balade un petit peu partout à l'antenne, il fait des selfies avec les champions. Donc apparemment, il a l'air d'être dans les petites papiers, le jeune.
La suite du tournoi King of the Ring avec Jinder Mahal versus Kofi Kingston. Oh oui, le vrai tournoi. L'autre parodie. Non mais c'est une parodie, mais ça me fait mal au cœur, hein, évidemment. Enfin. On kifferait tous voir un super tournoi féminin.
Bah ouais.
Écoute, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Et là, c'est de la merde.
Il faut le dire.
Disons-le. Jinder Mahal, Kofi Kingston. Est-ce que Kofi Kingston va affronter son partenaire Xavier Woods pour le tournoi? Eh bien, vous allez le savoir dès maintenant. C'est le Maharaja hein, qui place les premières offensives. Ça se balance, voilà. Ça se balance des provocations. Le High Flyer de son côté place des dropkicks des Hurricane Rana, il sort tout son arsenal. Et puis après, on place un SOS qui c'est un petit peu qui était un petit terminé un petit peu bizarrement. Crossbody met mal, kick out. Il attaque Kofi Kingston. Alors il est entouré de ses deux Golgoth hein, tout autour. Hein. Je sais plus comment il s'appelle là. Viré Shanky. On croirait un dessin animé Nickelodeon quoi. Viré Shanky. Ouais. Ouais, ça pourrait être sympa de les mettre. Ah bah non, ils les ont séparés. Donc c'est même plus une tag team ce machin. Bref, voilà. Et puis Xavier Woods débarque. Xavier Woods débarque pour faire la loi justement face à Viré Shanky qui commençait à foutre le bordel. Mais malheureusement, cette petite distraction permet à Mahal de gagner le match en battant Kofi Kingston. Il n'y aura donc pas d'affrontement fraternel. Déçu ? Pas déçu ?
Bon non, pas déçu, parce que ça nous fait une demi-finale avec vraiment un vrai heel face à un bon babyface comme Xavier Woods. Donc ça va nous donner, à mon avis, un bon match. Et bon, là, on a eu un match un tout petit peu plus court que celui du premier quart de finale. Là, on a eu un match de 9 minutes. Et c'était plutôt cool. Alors tu vois, voilà, par exemple, on parlait des équipes tout à l'heure. Mais moi, Viré Shanky, j'ai envie de les voir. J'ai envie de les voir un peu dans la Tag Team Division. Et voir un peu ce qu'ils seraient capables de faire, d'aller un peu défier du champion et tout ça. Voilà une équipe, moi, qui m'intéresse, en fait. Ce clan des Indiens, là, moi, je suis plutôt client, en fait. Et du coup, j'attendais Jinder Mahal. Et Jinder Mahal pourrait très bien passer en très bon King of the Ring. Voilà un heel détestable as fuck. Et qui passerait très bien, et tout le monde dirait « Oh là, ça fait chier d'avoir Jinder Mahal en King of the Ring !» Mais justement, il est là pour ça. Donc, il est crédible, donc moi, ça me va tout à fait. Le match en lui-même était plutôt pas mal. La perspective d'avoir Kofi Kingston face à Xavier Woods, c'était quand même quasiment de l'ordre de l'impossible. Mais mine de rien, si ça avait été le cas, moi, j'aurais trouvé ça assez savoureux, et ça aurait pu être marrant d'avoir un Kofi versus Xavier. voilà, dans un truc fair play, il serait serré la main au début et puis un câlin à la fin, tu vois. mais bon, globalement, je suis plutôt satisfait. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Encore un match masculin du côté du tournoi King of the Ring, bien géré.
Ouais, voilà, simple, efficace. Jinder Mahal. Qui a la tête de l'emploi d'ailleurs. Il a tellement la tête de l'emploi qu'il allait enfiler sa petite couronne. Il s'y croit déjà, hein, Jinder. Il s'y croit déjà. Il était à fond. Là. Même si la couronne lui tombait sur le nez, mais comme il a un gros pif. Ça glissait pas, donc il est fait pour ça. Il est fait pour ça, notre Jinder. On veut le voir, le roi. Longue vie au roi Jinder. Longue vie au roi Jinder. Direction le main event des filles. La vraie scène féminine. La vraie division féminine. Alors, il y a eu plusieurs segments, je crois, backstage. J'en ai eu notamment Charlotte. Je crois qu'il y a un truc.
Ouais, elles ont chacune eu en fait une promo, ouais, tout au long du show, quoi. Et elles avaient tout un mot gentil à dire sur leurs adversaires, bien évidemment.
Ouais, oui, évidemment.
Cela se passait dans la politesse et dans le respect.
Comme on peut l'espérer pour ce genre de configuration. Alors là, c'est un match tag team. Hein. Sasha Banks, oui, et Bianca Belair doivent affronter les deux championnes, hein, de Raw et de SmackDown, Charlotte Flair et Becky Lynch. Alors, il y a de l'historique entre toutes ces filles. Elles se sont toutes croisées, elles se sont toutes causées du tort, elles se sont toutes piquées la ceinture. Donc, voilà. Personne n'a de respect pour personne. Personne ne veut faire équipe avec personne, mais il faut bien pour ce soir. Alors, Sasha Banks et Bianca, ça commence dès le début, se battent pour qui va entrer en premier, qui va commencer les hostilités. Alors, ça a duré une heure, cette histoire-là de « je te tag, je te tag, je te tag, je te tag ». Jusqu'à ce que Becky Lynch attaque. Bon, les filles, commencez à me casser, sévère là. Vous me cassez les burnes, j'en ai 10. J'ai même pris celle de mon mari, il n'y en a plus besoin. Boum. Et puis c'est la grosse bagarre, c'est le brawl en fait.
Ah ouais, c'est le chaos.
C'est le chaos, ça se tape dessus, les arbitres, les officiels sont obligés d'intervenir. On se place des moonsaults à tir larigot. Enfin, on se demande, on sait plus trop si le match a vraiment commencé ou pas. Non, je vous rassure, le match n'a pas commencé. On voit même Belair qui balance Sasha Banks sur ses adversaires. Enfin, y a plus de respect, il y a plus d'équipe. Adam Pearce et Sonya Deville débarquent et essayent de se faire entendre en disant c'est inacceptable. On ne veut pas voir ça ici. Mais personne ne fait vraiment attention à ce qu'il raconte.
Tout le monde s'en fout en fait.
Tout le monde s'en fout, on n'en les entend pas. Je crois que le message est clair. Vis-à-vis de l'autorité naturelle d'Adam Pearce et Sonya Deville. Et puis quand même, tout le monde reprend ses esprits, il y a une pause pub et le match peut commencer. C'est Sasha Banks et Charlotte Flair qui commencent. Alors Charlotte qui va assez largement dominer les débats hein, pendant tout le match. Elle aura été mise un peu en difficulté, peu en danger. De toute façon, c'est pas vraiment à elle de briller ce soir parce qu'elle est pas vraiment concernée par l'affiche de Crown Jewel. Belair entre à son tour. Elle se débarrasse de Sasha Banks et attaque Becky Lynch. Et puis ça va être comme ça un peu tout le long avec Sasha Banks qui va faire le tag et qui va balancer Belair à chaque fois assez physiquement pour prendre le tag. Et puis alors après ça devient du n'importe quoi puisque Charlotte fait un peu pareil pour faire son tag. Elle met une grande claque sur Becky Lynch en lui faisant des petites tapes sur la tête là, le truc qui agace et pour l'empêcher de placer son finisher.
C'est agaçant ça.
Ah c'est agaçant monsieur, hein, n'est-ce pas hein. Et puis à la fin, alors là, à la fin, tu vas m'expliquer puisque oui, sur le principe que Bianca Belair attaque Sasha Banks, ou en tout cas la balance en dehors du ring, l'arbitre signe une double disqualification parce que c'est le bordel et que du coup tout le monde continue à se mettre sur la tronche jusqu'à ce que Becky Lynch soit la seule à être encore debout.
Jimmy Smith annonce même un no contest en fait au commentaire lui.
Oh d'accord, c'est carrément no contest. Bah, je pense que c'est la facilité. Quand on ne sait plus vraiment ce qui s'est passé d'un point de vue arbitral, vaut mieux signaler un no contest. Je pense que c'est le meilleur call que tu puisses faire côté au commentaire. Dire oh, bah écoutez, un no contest. Par décision arbitrale, un no contest.
C'était complètement ça. Bon, écoute, c'était le match. En fait, officiellement, le match aura duré 5 minutes. Mais tout ce segment aura été beaucoup, beaucoup plus long, finalement. Puisque dès le début, ça va pas. Et au milieu, ça va pas. Et à la fin, ça va pas. Et à la fin, ça va pas non plus. Et c'est un peu le chaos tout le temps. Et ben, moi, j'ai trouvé que j'ai bien aimé, en fait, ce bordel. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et que finalement, ça s'envoyait tellement entre les nanas. Parce que quand même tous les passages à chaque fois que ça remontait sur le ring et tout ça, c'était pas là pour rigoler quoi. Ça s'est balancé de la souplesse, ça s'est envoyé. Sacha qui me paraît bien en forme, ça a dû faire plaisir à ringside. Et je parle physiquement quoi, vraiment en termes athlétiques. Et puis face avec une Bianca Belair, moi que je trouve énorme de sortie en sortie. Plus ça va, plus elle m'épate dans le ring. Et vraiment là du coup, ça donne une belle confrontation quoi. Enfin moi. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce segment féminin, malgré que ça n'avait quelque part pas de sens et que c'était finalement une espèce de bagarre gratuite, un peu orchestrée un petit peu autour d'un match, quoi. Mais par contre, un truc qui pour moi a sauté aux yeux dans ce Monday Night Raw, c'est que bah c'est là où tu vois vraiment la différence entre les main eventeuses et puis toute la low mid card de la division féminine. Là, il y a vraiment un gouffre. Qui ne peut être couvert parfois que par Shayna Baszler, et Bayley est pas là, donc on peut pas juger là actuellement. Mais vraiment, il y a un gouffre là. On a vu ce que c'était un angle tout ça fait avec les grosses cadors de la division, et puis un Queen of the Ring complètement à chier.
Ouais, bah voilà, il y a tout un monde, là, tout un univers entre ces main eventeuses qui sont qui occupe tout l'espace là, avec des grosses configurations, des gros match-up, des filles super athlétiques, qui ont des personnages hyper forts, qui
sont établis.
Qui font des main events, qui font les openers, les main events, des weekly, des pay-per-view. Ça c'est effectivement. Et de l'autre côté, c'est l'ancien monde en fait. C'est l'ancien monde qui nous traîne encore un petit peu là, qui est toujours là derrière nous avec. Des filles ridicules qui font des matchs de moins de 2 minutes, qui terminent sur des roll-up avec des tournois complètement cons. On se dit pour à quoi bon Enfin voilà. Effectivement, là, il faut construire ça, c'est quelque chose. Ils ont plus de quoi construire parce que dans tous ces. On parle de low-card, mais t'as quand même des anciennes championnes, les Carmella, les Natalia, Shayna Baszler, tout ça, c'est quand même des filles à qui on a donné les clés du camion pendant voilà, à une certaine époque et qui. Sans être qui sont clairement pas au niveau de ce qu'on vient de voir là, hein. Attention.
Ça va pas. Tu fais monter des filles, là, il y a peu, de NXT, etc. Il y a des filles qui sont arrivées avec Toni Storm, même Rhea Ripley. Oh, ben, Rhea Ripley, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est dans le main roster.
Ah, bah, pourquoi on l'a vu Rhea Ripley avec,
Toni Storm, tu te rends compte, elle se fait rouler
Nikki,
dessus.
C'était, bah oui, je sais, bah
Toni
oui.
Toni Storm, elle se fait rouler dessus, quoi. Alors que tu peux dire, bon, bah, peut-être qu'elles vont un peu lancer quelque chose. Rhea Ripley, elle aurait eu tout à fait sa place dans ce King of the Ring, quoi.
Ah, et même génial.
Ta copine, Nikki, je vois pas pourquoi elle aurait pas pu choper un ticket aussi, quoi. Tu vois, c'est un peu dommage tout ça, quoi. Enfin, il y avait peut-être de la possibilité d'avoir un tail line-up, mais bon, on va pas revenir là-dessus parce qu'on va on va être fâché.
Ah, on va être énervé, puis après on va mettre des sales notes.
Ouais, on va en reparler.
Bon, voilà, clairement, il y a les main eventeuses et puis il y a le reste.
Et le reste du monde.
Bon, le reste du monde, il a un toit, le toit du monde. Il y a Biggie, il y a Drew McIntyre dessus. Et ouais, des patrons, hein, des tauliers, qui ce soir affrontent donc les Ouzo, un match qui était booké un peu plus tôt dans l'émission. Alors, il n'y a pas de titre en jeu ou quoi que ce soit, mais juste, les Ouzo sont venus envoyer un message. Ils sont venus faire le sale boulot de Roman Reigns, qu'ils ont eu au téléphone, je crois, un petit peu plus tôt, lors du séance de passage, pour leur dire, voilà, ils sont en mission. Ils sont en mission, et leur mission, c'est d'aller tabasser le futur adversaire de Roman Reigns pour les Survivor Series. Ça, on a compris. C'est bon. On a intégré. Sauf que ça va pas forcément être si facile que ça. Quand même, Biggie,
c'est jamais Drew simple McIntyre. En catch.
Rien n'est simple. Alors, on commence avec Jimmy et Biggie dans le ring. Voilà, le Powerhouse qui domine complètement Ouzo pendant le début de ce match. Et puis, lui, d'ailleurs, avec McIntyre, ils utilisent quelques moves de New Day. Hein, ils font le Unicorn Stampede, si je dis pas de bêtises, au début de ce match, c'était assez rigolo. Jay arrive, ça se balance des coups dans la tronche. Et puis, une fois que Biggie est mis dans le coin, c'est les Ouzo qui, cette fois-ci, le tabasse. Alors, le Biggie est l'homme en péril dans cette histoire, hein. On attend tous le retour de Drew McIntyre qui fait le hot tag, mais il se bouffe un double super kick pour le compte de deux. L'Écossais qui contre un Samoan drop et place des neck breakers sur Jimmy. Voilà, direction l'hôpital. Il s'apprête à placer son finisher, mais Biggie fait son tag. C'est un petit peu le. Enfin voilà, c'est une ficelle qu'on aurait vu beaucoup ce soir, hein, entre les filles et les garçons. Ces équipes là de rivaux avec des mecs qui se taguent dans le dos pour se choper les finishes. Mais voilà, Biggie se bouffe à son tour des gros super kicks dans la tronche, mais il se relève. McIntyre en profite pour virer Biggie et tenter le tomber. Ça se bagarre côté ringside, mais le pauvre Écossais, il se retrouve quand même la tête ouverte, hein. Il est en sang.
Et il est en sang.
D'ailleurs, je me demande, c'est à quel moment qu'il s'est ouvert le front, là, Drew McIntyre. Ils se sont bagarrés dehors et il a dû se bouffer.
Ah, c'est quand ils sont à l'extérieur du ring, ouais. Je crois que, je sais plus.
On n'a pas bien vu, j'ai pas un souvenir d'un spot particulier. Toi, quand je l'ai vu avec son sang, j'ai dit, bah, attends, qu'est-ce qui s'est passé, Drew, ton si beau visage, là, tu viens de l'écorcher. Et puis, à la fin, la soirée, il avait un œuf, hein. Parce que t'as vu, mais je pense que la semaine prochaine, il aura un bon pansement sur le front, l'Écossais.
Ah, c'est possible. Ouais, c'était bien stiff, ouais.
Ouais. Je pense qu'à un moment, il s'est retrouvé la tête dans la table, l'Écossais, je crois. Biggie,
oui, parce qu'il y a tout un spot autour de la table des annonceurs et tout ça, quoi. Où d'ailleurs, Biggie est balancé aussi à un moment. Enfin, il y a du gros spot, hein, pendant ce match. Hein.
Ouais, parce que les Ouzo, voilà, préparent les tables et puis ça se tease et puis finalement les gentils reprennent le dessus. Les Ouzo se font balancer à la fois par Biggie et par Drew McIntyre dans des belles séquences là effectivement autour du tablier là à l'extérieur du ring. Et puis Drew McIntyre place. Attends, c'est. Non, c'est. Oui, voilà. Après, voilà. Victoire de Drew McIntyre. Et de Biggie. Et Drew McIntyre qui place une Claymore sur Biggie.
Et ouais, pour finir en beauté.
Pour finir en beauté, et c'est l'Écossais, écoute, hein, c'est l'Écossais tout simplement qui, euh, qui clôture le show. Il est debout, oui, il est fort. Et pauvre Biggie, là, on parlait de ses débuts de champion pas facile, parce que voilà, il est un peu noyé dans des grosses configurations. On le voit pas tant briller en solo que ça. Et là, en plus, le pauvre, là, il bouffe la semelle, la pointure 46 de l'Écossais. Coup dur, là. C'est dur, là, pour le champion. Après ce gros match.
Ouais, gros match, hein. Plus de 15 minutes. Là, franchement, on a eu un chouette main event. Là, par contre, là, rien à redire. Vraiment, là, c'était du solide. Ça envoyait du bois. Il y avait de l'action tout du long. Et les Ouzo, c'est vraiment génial. Hein. Les Ouzo, quelle équipe, quoi. Je me lasse pas des Ouzo, quoi. Vraiment, ils sont autant incroyables dans le ring que capables au micro. Donc, vraiment, ils ont le total package. Là, et en plus, ils sont dans le clan peut-être le plus incroyable qu'on ait eu ces dernières années là avec la Bloodline. Donc vraiment, non, c'est cool, quoi. Super kick party, la totale, les suicide dive, on veut, tu en voilà, et que je te passe par-dessus la troisième corde, que je t'utilise tous les éléments du décor, que je te balance par-dessus les tables des annonceurs. Ah, c'est la totale. Là, vraiment, on a eu un match avec la totale. Tu connais pas le catch, t'arrives, tu vois, t'as un match par équipe, tu tombes là-dessus. Avec les Golgoths de la WWE, parce que même si les Ouzos sont plus petits en termes de taille, c'est quand même des gars trapus, hein. On n'a pas envie de rigoler avec eux, ça serait des bons troisième lignelles de rugby. Et du coup, ça donne un truc spectaculaire pour finir Monday Night Raw. Donc ça, c'est toujours cool pour finir un weekly. Et puis à la fin, effectivement, Drew qui se présente en haut de la chaîne alimentaire, hein, finalement, hein, qui dit voilà, hein, c'est moi qui suis là, et qui sait que je reparte avec le titre d'Euro, et peut-être que ça rebattrait les cartes du côté du draft. Je sais pas ce qui se passerait dans ces cas-là.
Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer?
Imaginons un truc de fou. Drew récupère le titre de Monday Night Raw et il bat Biggie à Crown Jewel. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait, mes amis?
En tout cas, c'était dans
l'absolu, ouais, c'était bien. Mais c'est bien les Ouzo qui gagnent le match. Hein.
Oui, c'est et ce que j'étais en train de me dire. C'est pour ça que j'avais une petite minute, parce que j'étais en train de me dire, mais attends, en fait, je me suis fait la réflexion, pourquoi j'étais plongé dans mes pensées. C'est pas parce que j'étais en train de me demander ce que j'allais bouffer ce midi, même si j'y pense en même temps, j'essaie d'être multitâche. La seule chose que je ne fais pas, c'est écouter les analyses de SmackDown. Ça, j'ai compris, tonton. Pas de problème. Mais j'étais en train de me dire, je me suis fait la réflexion qu'en fait, on a eu comme deux fois un peu le même match avec les filles et les garçons, avec des partenaires qui n'arrivent pas à s'entendre, et surtout un no contest, ouais, ou un DQ à la fin à cause d'un...
Ouais.
Et McIntyre, ils ont été décomptés à l'extérieur. L'extérieur. Et c'est ça qui s'est passé. Et les Ouzo ont gagné. Okay, donc le compte de 10 est passé. Et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'en fait, il n'y a pas le même traitement arbitral sur les deux matchs. Enfin, c'est assez bizarre, toi. Il y a de fin de match, parce que les partenaires se mettaient sur la tronche, qui était assez chelou pour le match des filles. Donc, Drew McIntyre finit en beauté, mais il a perdu son match, mais c'était pas le plus important. Donc, c'était plutôt quand même bien foutu. Hein. Les Ouzo, ils ont fait le sale boulot, ils ont gagné leur match, donc ils vont pouvoir rentrer voir la tête de... la table, dire c'est bon, on a foutu une petite victoire là, bien sentie en main event, hein.
Toujours appréciable.
J main event, et ça, tu l'as dit, Biggie, c'est bien, c'est bien. Biggie va falloir gagner à Crown Jewel, hein. T'as intérêt à gagner, parce que sinon
pour l'instant c'est mon favori, en tout cas.
Oui, bah après voilà, tu pensais, c'est du booking inversé, et comme oui. On dit c'est du booking inversé. Mais j'ai vraiment, je suis vraiment impatient de le voir, parce que j'avais beaucoup adoré son match face à Bobby Lashley en cage à Raw, qui était, qui effaçait la frustration de pas l'avoir vu en single match au pay-per-view la nuit d'avant. Donc là, je suis impatient de voir ce match à Biggie contre McIntyre. Je serais presque tenté de dire le premier gros challenge de Biggie, tout simplement, hein, depuis qu'il a glané cette ceinture, puisque. Entre-temps, voilà, il n'y a eu que des configurations de tag team, des choses comme ça. On ne l'a pas retrouvé en grande difficulté, la Biggie. C'est bien. Il n'y a pas eu de stipulation qui a été rajoutée pour ce match-là, d'ailleurs.
Non. Mais c'est bien, ça monte en pression, doucement, tranquille, qu'il construise son règne. On verra, tu vois, d'ici la fin de l'année où ça en sera. On verra s'il va déjà conserver à Crown Jewel. Et puis après, voir un peu ce qui va se passer pour Survivor Series, qui est toujours un pay-per-view un petit peu particulier dans l'année. Et ça va être sympa, ça. S'il est champion encore après Survivor Series, ça nous inaugure un TLC de fin d'année peut-être savoureux aussi.
Ah oui. Ah oui, là, franchement, on arrive quand même sur des gros pay-per-view, les Survivor Series et TLC. On sait à Kakachop et on sait aussi que celles et ceux qui nous écoutent adorent ces gros pay-per-view hein, avec des grosses tipus. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu des matchs à échelle, des matchs à table, des matchs bon, à chaise, on s'en fout, mais du fun, quoi, toi.
On a eu Money in the Bank en juillet quand même cette année.
Oui, oui, mais ça, c'est... Voilà, t'as le Money in the Bank, t'es pas le choix, t'es obligé de prendre une échelle pour aller chercher ton... ta mallette. Mais là, je te parle vraiment de vrais de matchs à échelle, toi. Ces matchs qui ont fait la grandeur du titre intercontinental dont tu parlais, voilà, ricochet dans un super match à échelle. C'est ça qu'on veut voir.
Ah, mais ouais, ouais, ouais. Bah, ça, voilà. Je suis d'accord. Hein. Voilà. Tu prêches un converti, là. Y a pas
même,
de problème,
tu sais, un Drew McIntyre versus Big E dans un match de table ou... Je sais rien. Enfin, gros, voilà, des grosses tipus comme ça, là, qui souvent permettent aussi de... à ces mecs de briller et de lâcher quoi, de lâcher la bride et de se retrouver à faire des grosses spots quoi. Surtout avec toi des mecs comme Drew McIntyre, c'est du costaud, on a envie de le voir tout détruire. Là ils ont tout détruit, mais on a envie de le voir détruire encore plus de choses. Bon écoute, c'est l'heure du mot de la fin, mon tonton.
Bah non.
J'ai oublié quoi? Tu veux pas?
Il y a un segment que t'as oublié, je crois.
Bon, attends, si c'est bon de parler de John Morrison qui fait ses séances de
yoga.
Ah
non, même pas, je l'avais oublié, ça, tu vois. Bah, tu vois, ouais, moi aussi, j'aurais oublié un segment de toute façon. Non, mais t'as pas oublié notre ami Bobby Lashley?
Ah oui, Bobby Lashley. Bon, en plus, on en a parlé. Bah, Bobby, on te respecte.
Bobby, ouais, ça va être
le fallout. Parce qu'est-ce qu'il a fait, Bobby? Qu'est-ce qu'il a dit encore?
Il est remonté.
Il est remonté.
Comme une pendule.
Et pourquoi il est pas content? Il est pas content à cause de Bill. Eh oui, à cause de Bill.
Bilou est pas le mec le plus sympathique de la Terre avec Bobby.
Eh ouais. Donc voilà, Bobby, effectivement, il a chopé le micro. Il nous a demandé... voilà, il a rappelé un petit peu ce que Goldberg avait dit la dernière fois. Il dit, ouais, c'est horrible ce qui s'est passé. De faire ça à un mec qui est papa... mais c'est lui le vrai champion. Il a défendu son titre pendant une année et puis maintenant voilà, on parle de meurtre et il nous explique qu'il est bien content que ce match va être un no holds barred parce que Goldberg il est complètement dingue, il peut pas le battre et il peut pas tuer le Almighty, tout simplement. Et voilà. T'es content? J'ai pas envie de parler de Bobby. Qu'est-ce que tu voulais dire de plus sur Bobby?
J'ai pas envie de parler de Bobby parce que Bobby, il est là. Attention, là, il est en embuscade. Hein, on l'a mis dans une rivalité rincée à Crown Jewel pour que Bilou puisse toucher son chèque. Hein, on est bien d'accord. Hein, je pense que c'est à peu près unanime. Donc, on l'a mis là en attendant. Il va fracasser Goldberg, j'espère, à Crown Jewel. Et voilà un match qui va être très rapide, les amis. N'allez pas aux toilettes à ce moment-là. Et j'espère juste que Goldberg ne blessera pas Bobby. Parce que Bobby, on en a besoin pour la suite de l'année. Et parce que pour moi, il n'a pas lâché l'affaire. Et c'est très bien comme ça, avec la refonte un peu du Hurt Business, là, avec la réembauche de nos amis Benjamin et Alexander. Moi, je suis curieux de savoir un peu la fin d'année qu'on va avoir avec le Hurt Business. On les avait mis tout en haut hein, des awards de catch-up en 2020. Et peut-être qu'avec ce licenciement, en mars ou en avril là, de Benjamin et d'Alexander, puis ce retour en octobre, peut-être qu'on va avoir une belle année avec eux. Donc c'est pour ça que je surveille de près ce que fait le Bobby Lashley, en attendant juste que cette rivalité avec Big Goldberg se finisse. Et qu'il touche ses dollars.
Ouais, voilà, prends ton chèque,
Goldberg. Ouais, ouais. Et puis va-t'en.
Laisse-toi détruire. Oh, moi, je... Honnêtement, ça me dérange pas de le voir une fois de temps en temps, que tu veux mettre over un mec, toi.
Ouais. On en a plus besoin. Non, pour moi, il y a plus besoin de ça. Ils ont du star power ailleurs, à la WWE, nom de nom. Ils ont d'autres mecs quand même à afficher, Bobby Lashley. Bill Goldberg, pour moi, là, ça y est, là, c'est un Hall of Famer, c'est du passé, c'est terminé, quoi. Faut arrêter avec Bill Goldberg.
Bah voilà, t'as été énervé, c'est pour ça que je voulais pas en parler.
Voilà.
Comme si t'étais content d'être en colère, mais ça va pas, tonton. Hein? Voilà. Va voir John Morrison, là, il fait du yoga.
Ouais, il fait de la méditation. C'est très très bien.
Et en plus, voilà, ça attire les filles, visiblement, donc c'est tout bénef. Jomo, voilà, le cours de Jomo Yoga, là.
Le mec a toutes les qualités du monde, hein. Le mec fait de la méditation, il doit faire à peu près 2 heures de gainage par jour. 1000 abdos par jour. On sent que le gars est bien dans sa tête, bien dans sa peau.
Oh ouais. Bah c'est tout le mal qu'on vous souhaite, chers auditeurs, chères auditrices. C'est tout le mal que je te souhaite, mon tonton, avant d'attaquer ce fameux mot de la fin. Enfin. Alors,
comme John Morrison.
Ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Allez, c'est parti. Bon, écoute, mon flop, hein, sans surprise. Je crois qu'il y avait le spoiler dans la review, de toute façon.
Ah, oui.
Mais ça sera pour le tournoi féminin. C'est une catastrophe totale. Voilà, vraiment un foirage du début à la fin. Line-up, organisation, durée des matchs, ou la totale, quoi. Le booking catastrophique, temps d'antenne misérable. Je crois que la liste est très longue, donc je ne vais pas vous faire la liste de Jericho, mais c'est le flop pour ce Monday Night Raw. Mon top, j'hésitais entre deux trucs, en fait, parce que j'ai beaucoup aimé le main event. J'ai trouvé vraiment que ce Raw se finissait bien grâce à ce main event. On a eu très très peu de catch durant ce Monday Night Raw, beaucoup de matchs entre 1 minute et 3 minutes, c'est même la plupart en fait, à part les deux exceptions avec les deux King of the Ring, donc masculins, ouais. Mais qui étaient plutôt sympas pour le coup, moi, deux matchs que j'ai bien aimés, mais ouais. Même chez les autres mecs, ils ont eu aussi droit à des matchs de 2 minutes 30, 2 minutes, 5, voilà, donc du coup j'hésite entre le tag team, parce que moi j'ai aimé le chaos du tag team féminin.
Ah oui, oui, on a bien, effectivement.
Voilà, donc en fait, je vais me faire plaisir, je vais me donner un co-top comme ça, féminin-masculin. Je vais donner au féminin le tag team chaotique des main eventeuses de la WWE. Et puis ce petit main event sympatoche de 15 minutes où on s'est bien éclaté, super kick party, et c'était bien cool. Donc ça le fait bien. Et puis bah, ma note, elle va être quand même pas super haute parce que même si, heureusement en fait, qu'on termine par ce chouette main event d'ailleurs, quoi.
Ouais.
Mais moi, je vais lui mettre un. J'aurais été plutôt parti sur un 2,5. Je vais un petit peu grimper la note parce que, quand même, le main event me laisse un goût satisfait à la fin du visionnage, tu vois. Donc, je vais mettre un 2,75 à ce Monday Night Raw.
Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Écoute, ouais, c'est.
À ce public, on n'en a pas beaucoup parlé, en fait, quoi, mais ils étaient en Californie. Ça faisait longtemps que la WWE n'était pas venue en Californie, là.
Je l'ai vérifié, ça fait 17 ans qu'ils n'étaient pas allés en Californie.
T'imagines, un truc de fou, hein. Et du coup, le public a bien aidé à un show quand même très moyennasse.
Ouais.
Et bah, tu vois, c'est pour ça que ce Monday Night Raw, je l'ai plutôt bien vécu. Parce que, en fait, le public de San Francisco était cool. Et a bien réagi, même dans les trucs vraiment tout pourraves avec Doudrop et tout ça là. Et bah, tu vois, le public était quand même chaud derrière, et ça a donné une, à mon avis, une ambiance générale au vaisseau amiral plutôt sympa, quoi.
Ouais, on est à San Francisco, c'est la ville de la tolérance, donc voilà, on tolère beaucoup de choses à San Francisco. On tolère notamment le tournoi féminin.
et ouais.
Le Queen's Crown, quel horrible nom en plus au passage. Des horribles couronnes et puis un show, franchement, écoute, qu'est-ce que c'est tiède Monday Night Raw, franchement, j'en ai marre de donner des 2,5, des 2,25, de toujours me prendre, ouais, toujours là, ouais. Me dire que je donne un 2,25 ou un 2,75, mais je préférais quand même me dire, bon, je donne un 3,75 ou un 4,25, tu vois, je préférais.
Et les notes avaient remonté un peu, on avait remonté un peu les notes là, pendant 3 semaines, 1 mois, là on a eu une période là en septembre là qui était plutôt pas mal, ça allait un peu, ouais. Mieux. Et puis là, ouais, là, voilà, on redescend et on est toujours dans ce truc entre 2 et 3, quoi.
Ils arrivent toujours à se rattraper d'une façon ou d'une autre. Là, toi, tu as parlé des main events, effectivement, ils ont balancé, ouais. Le main event des filles et surtout celui des mecs, là. À la fin, tu ressors du show avec un peu la banane et sourire. Puis après, tu y repenses, tu te dis, mais attends, il s'est passé quoi les 2 heures d'avant?
Ouais, parce qu'après, après, on review ensemble et puis on se rend compte que, ah ouais, il y a eu ça, ça a duré 2 minutes, ça a duré 1 minute 20. Ouais. Ça s'est organisé de telle manière, ça a été booké comme ci, ça a été booké comme ça. C'est vrai que, en fait, c'est ça qui tue un peu, peut-être, le fait d'analyser le show derrière, c'est là où tu te rends compte des faiblesses plus facilement, finalement. Alors que j'avoue que quand j'ai fini le show sur l'instant, comme moi, j'aime bien terminer par un bon main event, bah, du coup, sur le coup, j'étais, ouah, c'était pas si mal que ça, ce Raw, là.
Ouais, bah écoute, moi, mon flop, honnêtement, je vais te suivre, je vais le donner au tournoi féminin, je commence à me poser des questions et tout, mais en fait, je vais faire comme toi, parce que c'est une honte, en fait, c'est une honte, tout simplement.
C'est du foutage de gueule.
Ah ouais, franchement, on devrait pas, faites pas ça, si c'est pour faire ça, le faites pas, quoi.
C'est un scandale pour les femmes, de toute façon, quoi. Moi, je considère que pour les workers, là, c'est une catastrophe, ouais. D'avoir un booking pareil, quoi. Moi, je serais elle, putain, mais je me plaindrais. Il paraît que dans les bookeuses, c'est Molly Holly qui aurait booké, par exemple, le match, le tag team entre Bel Air et compagnie, tu vois. Donc je sais pas qui est la bookeuse des low mid-cardeuses, mais faut vraiment revoir le truc là, hein, parce que là ça va pas du tout.
Ouais, non, ça va pas du tout. Et puis, écoute, y a pas grand-chose qui m'a vraiment excité. Y a eu des bons moments, il y a eu des trucs fun, il y a eu pas mal de petites choses fun tout au long du match. Mais je le donnais aussi à ce main event. Avec, voilà, ça finit en table cassée, et en grosse bagarre. Et puis, tu sais quoi, je vais le donner plus particulièrement aux Ouzo. Qui ont pas fait le déplacement pour rien.
Ça, c'est clair. Ouais. Là, les mecs
Voilà.
sont venus poser leur marque.
Voilà, ils sont arrivés. Toi, ils ont sauvé, je trouve, l'opener, parce que l'opener commence à être un peu long, là. Ils sont venus dynamiter un peu le. Ils sont venus dynamiter l'épisode, en fait. C'est eux qui ont foutu le bordel. Parce que si tu oublies tout ce qui s'est passé au milieu, qui était pas. Ils étaient là dans l'opener, ils étaient là dans le main event. Envoyés en mission par le patron, par la tête de la table, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont partis avec une victoire. Donc, en fait, bravo les frangins.
Ils sont
Ben,
venus, ils ont vu, ils ont vaincu. C'était
voilà.
clair, c'était net, c'était précis.
Et puis ma note, écoute, je vais donner un 2,5. Ouais, même pas, voilà. J'hésitais entre 2,25 et 2,75, du coup, je vais donner un 2,5. Je suis impatient de pouvoir donner. En fait, j'ai envie de donner soit des super notes, soit des sales notes. J'ai pas envie de donner des notes moyennes, quoi.
L'impact du public, hein, tu vois, je réfléchissais à ça, c'est. Je vois la différence. Là, peut-être que j'aurais mis une note plus basse si on avait été encore en époque Thunderdome, tu vois. Le
Ouais.
même show, avec le son de Kevin Dunn dans le camion, je pense que ma note aurait été plus basse. Mais là, du fait du public de San Francisco, et bah, c'était cool, c'était fun, et ça faisait plus avaler la pilule. Mais Monday Night Raw reste le bichot, hein, point barre, hein, pour moi, hein, c'est clair, hein, SmackDown, on est dans un autre level. Hein. Même si celui de la semaine dernière était assez moyen, mais malgré tout, sur la durée. C'est SmackDown qui tient la route grave. C'est le
Ouais,
plus
ouais.
grand show des shows, le monde merveilleux du show bleu.
Un truc qu'on pourra pas lui retirer, c'est qu'au moins ça se concentre sur le booking de Crown Jewel. Et voilà. Et que Crown Jewel est considéré vraiment comme un pay-per-view qui fait vraiment partie du calendrier officiel. Et qu'on n'est plus en train de booker deux pay-per-views en même temps. Bon, à part quand les Ouzo parlent des Survivor Series, et là que tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais autrement, voilà. On était concentrés. Donc voilà, la direction est bonne, mais c'est l'exécution qui est assez scandaleuse. Bon, et ben c'est fini, tonton. Je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify et même YouTube en version vidéo. Vous pouvez y poster en commentaire votre top, votre flop et votre note. Dites-nous ce que vous pensez là de ce tournoi féminin, de cette deuxième partie qui est presque encore pire que la première partie. Dites-nous si vous êtes excité à l'idée de voilà, à cette carte-là qui s'est bien dessinée pour Crown Jewel. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Catchup CDC et également pour Instagram. N'oubliez pas, le lien vers notre serveur Discord est dans la description. On y parle catch, évidemment. Merci à toi, tonton, d'avoir fait équipe avec moi.
Eh ben écoute, merci à toi, mon patron, pour cet hosting de qualité. Toujours un plaisir d'être en tag team partner avec toi pour reviewer le vaisseau amiral de la WWE.
Yes, bon, ouais, écoute, on s'amuse, hein. On s'amuse bien
Oui.
avec W pour le meilleur et pour le pire. Hein. On a signé, on savait ce qui nous attendait. Voilà, ça peut pas être la lune de miel toute l'année. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine évidemment pleine de catch. On se trouve très très bientôt. Salut, salut.
Salut patron, salut peuple de catcheurs! Dédicace au monteur!
Le monteur, je l'imagine en train de. Quand il fait son montage, il fait la petite danse de Doudrop.